Le soleil commençait à décliner sur les plantations du Midwest. Sa lumière dorée inondait les cannes de maïs, se faufilait entre les plants de soja, prenant à revers et à contre-jour les silhouettes massives de hangars à grains et de fermes laitières. Au volant de son monospace, Mark Karadec filait toujours vers l'ouest. Beaucoup percevaient les paysages de l'Ohio comme exaspérants de monotonie. Lui, au contraire, se coulait avec un certain contentement dans ses couleurs flamboyantes, goûtant les mille variations de lumière et la foule de détails qui se succédaient au fil de la route. Le profil surréaliste d'une moissonneuse batteuse rouillée, un troupeau de vaches ruminant avec placidité, une enfilade d'éoliennes tournoyant dans un ciel safrané. Les panneaux s'enchaînaient, au nom tout droit sorti de western. Wapakoneta, Rockford, Huntington, Coldwater. L'endroit qu'il cherchait se situait peu avant Fort Wayne, à la limite de l'Ohio et de l'Indiana. Encore quelques kilomètres, et il saurait s'il avait eu une intuition géniale ou s'il n'avait fait que perdre un temps précieux. Un General Store se profila à l'horizon. Mark jeta un coup d'œil à la jauge. Il n'était pas encore à sec, mais il décida de se débarrasser maintenant de la corvée d'essence. Clignotant, vitesse qui rétrograde, nuages de poussière, il se gara devant l'unique pompe, non loin d'un pick-up antique, échappé des pages d'un roman de Jim Harrison.
« Le plein, monsieur ?»
Un gamin avait surgi derrière lui. Vêtu d'une salopette trop grande et d'une casquette des Reds de Cincinnati, il avait une bouille souriante. 13 ans à tout casser. Mais ici, ce n'était apparemment pas un problème de faire travailler les gosses.
« Yes, please !»
répondit-il en lui tendant les clés du SUV. Mark poussa la porte du diner accolée au magasin général et fit quelques pas sur le parquet défoncé recouvert de sciure. Les particules de poussière qui dansaient dans les rayons du soleil se dissipaient sur son passage. Le flic balaya la pièce du regard. En ce début de soirée, le restaurant en préfabriqué était plongé dans une sorte de demi-sommeil. Derrière le comptoir, quelques habitués vidaient des pintes de bière en s'injectant du cholestérol directement dans les veines sous forme de hamburgers au bacon, de barbecue ribs et de fish and chips baignant dans leur graisse. Dans un coin du plafond, un téléviseur fatigué retransmettait en direct le déroulement de la convention républicaine, mais le son était coupé et personne n'y prêtait attention. D'un poste de radio posé sur une étagère, s'élevait un vieux tube de Van Morrison. Mark grimpa sur un tabouret et commanda une Bud qu'il dégusta tout en relisant ses notes. Sur le papier, l'hypothèse qu'il avait choisi de privilégier ne valait pas tripette, mais il s'y accrochait de toutes ses forces. S'il se souvenait bien de ses cours de latin, le concept d'intuition dérivait d'un terme signifiant « image réfléchie par un miroir ». L'image. Les images. C'est bien à cela qu'il avait prêté attention. Le film qu'il avait vu défiler dans son esprit en essayant de se mettre à la place de Florence Gallo. C'était une méthode que lui avait enseignée au début de sa carrière un vieux flic de la BRB, adepte de yoga, de sophrologie et d'hypnose. Essayer d'entrer littéralement en empathie avec une victime. Se mettre intuitivement à sa place. Ressentir la même chose. Pendant un bref moment, devenir elle. Mark était sceptique sur la capacité à établir une sorte de connexion mentale avec la victime. Mais il était convaincu que la déduction et la rationalité ne prenaient leur pleine mesure que si elles intégraient des paramètres psychologiques. De ce point de vue, la conversation qu'il avait eue avec Alan Bridges, de son vrai nom Alan Kowalkowski, avait été particulièrement éclairante. Elle lui avait donné de la matière pour entrer dans la tête de Florence. Raphaël avait raison. Florence avait bien envoyé à Alan un fichier audio par mail. Une conversation qu'elle venait d'enregistrer avec son téléphone entre Joyce Carlyle et son assassin. Elle l'avait fait juste après avoir appelé le numéro d'urgence pour signaler l'agression de la mère de Claire. Elle l'avait fait sous le coup de l'émotion, dans un état de stress maximal. Et surtout, elle l'avait fait sur un ordinateur qui ne lui appartenait pas, puisque la femme d'Alan avait vandalisé son bureau et son matériel le jour précédent. Un ordinateur auquel elle n'était pas habituée, et une messagerie dans laquelle elle n'avait pas ses contacts. En fermant les yeux, Mark pouvait presque voir Florence. L'urgence, la peur, la transpiration, ses doigts qui couraient sur le clavier au moment de rentrer l'adresse d'Alan. Entre deux pages de son carnet, Mark avait retrouvé la carte de visite que le rédacteur en chef du Winterson leur avait remise et sur laquelle il avait calligraphié son adresse personnelle. alan.kowalkowski@at.net. Sauf que ce n'était pas exactement cette adresse que Florence avait entrée dans la précipitation. Telle était l'hypothèse de Marc. Florence avait tapé alan.kowalkowski@.net avec un Y à la place du I. Kowalkowski Y à la place de Kowalkowski I. Pourquoi ? Parce que c'était sans doute la première orthographe qui lui était venue à l'esprit. D'abord, l'erreur était fréquente sur ce type de terminaison. Et puis, elle vivait à New York depuis longtemps, et les Américains avaient tendance à préférer le Y pour certains noms d'origine russe. Les Américains écrivaient Tchaïkovski, Dostoïevski, Stanislavski avec un Y final, là où les francophones optaient pour le I. Sauf que Kowalkowski était sans doute un nom d'origine polonaise, pas russe. 4. Vous savez qui est l'assassin de Joyce ? La Pullman's Niche Bakery était plongée dans la moiteur, le silence et les odeurs d'oignons, de menthe et de ciboulette. « Non, » me répondit le flic, visage impassible. Je reformulai ma question. « Détective Baresi, vous n'avez pas attendu que je vous le demande pour consulter le fichier, n'est-ce pas ?» Il soupira.
« C'est pour ça que j'étais en retard, » admit-il. « May m'a raconté votre histoire et je dois bien avouer qu'elle m'a troublé. »
Il détourna les yeux et laissa le silence s'installer. Je ne tenais plus en place sur ma chaise. J'allais enfin savoir.
Tout le travail avait été fait il y a 10 ans par le labo, expliqua-t-il en agitant devant mes yeux le document où était codifié le profil génétique. Je n'avais qu'à me connecter au serveur du CODIS et à entrer les données. Et cette fois ça a matché, devinai-je.
Un nouveau SMS d'Alan s'afficha sur mon écran, mais je l'ignorais. Baresi sortit de la poche de sa chemise une feuille pliée en 4.
Voici notre suspect.
Je dépliai la feuille pour découvrir la photo d'un homme au visage large et carré. Une coupe en brosse surmontait sa tête de bulldog. Il me rappela vaguement Ernest Borgnine dans Les 12 salopards.
« Il s'appelle Blunt Liebowitz », précisa Baresi. « Né le 13 avril 1964 à Astoria, dans le Queens. Il s'engage dans l'armée de terre en 1986 et y restera jusqu'en 2002, sans jamais dépasser le grade de lieutenant. Il participe notamment à la première guerre en Irak et aux opérations américaines en Somalie.
Et depuis son départ de l'armée ?
J'ai pas creusé. » Mais lorsqu'il s'est fait arrêter il y a 4 ans, il a mentionné être à la tête d'une petite entreprise de sécurité privée.
Son nom n'est jamais apparu dans l'enquête sur Joyce Carlyle ?
Non, ni de près ni de loin.
Pourquoi est-il dans le fichier ?
Une peccadille. La police de la route l'a arrêté à Los Angeles en 2012 pour conduite en état d'ivresse. Le ton est monté et Liebowitz a menacé l'agent qu'il contrôlait. Il a passé une nuit en cellule mais est ressorti libre du commissariat.
Pas d'autres condamnations ?
Aucune à ma connaissance.
Baresi posa un billet sur la table et s'essuya la bouche avant de se lever et de me mettre en garde.
Écoutez-moi bien. Vous avez sans doute vos raisons pour ressortir cette vieille enquête du placard. Mais je veux pas les connaître. Je vous ai donné des infos parce que je dois un service à May. À présent, cette affaire ne me concerne plus. Démerdez-vous tout seul et n'essayez pas de me recontacter, compris ?
Sans attendre ma réponse, il fit volte-face et traversa la salle. Je l'interpellai.
Ça ne vous intéresse donc pas de connaître la vérité ?
Il me répondit sans se retourner.
Je la connais déjà, la vérité. Et si vous n'étiez pas aveugle, vous auriez compris qu'elle est devant vos yeux.
Tandis qu'il passait la porte, je méditais un instant sur ses paroles. Qu'entendait-il exactement par « la vérité est devant vos yeux » ? Je baissai la tête, relisant attentivement toutes les informations qu'il m'avait fournies à propos de ce Blunt Liebowitz. J'enrageais d'être pris pour un imbécile, par ce type aussi suffisant que désagréable. Puis, soudain, mon regard se posa sur le journal plié sur ma table. Et je compris. Comme tous les autres journaux, le New York Times consacrait sa une à la Convention républicaine. Sur la photo qui occupait la plus grande partie de la première page, on voyait Tad Copeland, le candidat du parti, en train de fendre la foule avec son épouse. À l'arrière-plan, sur le cliché, muni d'une oreillette, on apercevait celui qui devait être le garde du corps de Copeland. Il s'agissait de Blunt Liebowitz.